Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde sur laquelle nous allons parler de transmutation, de métamorphose, d'évolution, et qui va probablement être très, très large, puisque nous avons dans notre panel d'invités un paléontologue, Jean-Sébastien Thiers, qui est passionné par les dinosaures et surtout tout ce qui concerne l'avant-dinosaure, mais pas que. Amateur de science-fiction, bien sûr, vous avez dû déjà l'entendre sur d'autres tables rondes. Il a écrit de nombreux livres autour de la science-fiction, Les animaux demain, et le plus récent porte sur cinéma et science-fiction. À sa droite... Oui, c'est bien ça, c'est ma gauche, donc c'est votre droite. Non, c'est à votre... Oui, c'est à sa droite. Oh là, ça commence mal. Antoine Rouard, physicien. Physicien qui s'amuse à faire taper des atomes ou des espèces d'atomes. Il nous racontera ça, les uns contre les autres. Et quand on parle de transmutation, lui s'amuse vraiment à transmuter des choses. Il nous en parlera un peu. Sylvain Neuvel.
Moi, je ne connais rien.
Voilà comment perturber son modérateur de façon très efficace. Sylvain, auteur, qui a, dans le dernier roman paru, Les dossiers de Thémis, troisième roman qui vient de sortir il y a quelques jours. Tous ces romans, tous ces auteurs seront tout à l'heure à la librairie, immédiatement après cette conférence en signature. Donc, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à prolonger les discussions avec eux à la sortie de sa table ronde. Sylvain a fait plein de choses. Il suffit d'ouvrir sa page Wikipédia pour se dire « Oula !» C'est assez impressionnant. Et parmi toutes les choses qu'il a fait, il a fait des études de linguistique. Donc, pour quelqu'un qui ne sait rien, quand même. Alors, on parlait de transmutation, métamorphose, évolution. Évidemment, lorsqu'on parle de transmutation, lorsqu'on parle de métamorphose, moi, je suis désolée, mais l'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image de Hulk. Et vous ?
Ah bah, c'est clair que les liens entre... Alors, c'est Hulk qui va peut-être être notre point de rencontre, puisque Hulk, c'est le physicien qui est transformé par les rayons gamma. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche absolument pas, c'est inutile. La créature qui évolue de l'homme au super monstre, et puis après le personnage de fiction fantastique qu'on connaît tous.
Ce qui est intéressant de Hulk, c'est qu'il y a quand même un effort pour essayer de rendre ça un peu scientifique. Là. On est loin du loup-garou où les trucs, on laisse un peu la magie... Faire son travail. On essaie les rayons gamma, c'était très, très populaire pour les super-héros à l'époque. Ça fait beaucoup de choses, mais...
Exactement. C'est une chose qui m'a frappé, c'est le lien qu'il peut y avoir entre radioactivité et super-héros. Donc on a, par exemple, Hulk et son rayon gamma. C'est rayon gamma qui le transforme. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, dans le Hulk de Ang Lee, qui était au début des années 2000, en fait, on voit Hulk, enfin donc Bruce Banner, qui est irradié par une espèce d'appareil qui émet des rayons gamma. Et en fait, c'était un vrai détecteur qu'on utilise en physique nucléaire, qu'on appelle Gamma Sphere. Je fais des expériences avec. Et sauf que nous, on l'utilise pour détecter des rayons gamma, alors que dans le film, il était fait pour produire des rayons gamma qui transforment Hulk après.
En termes de morphologie, Hulk, il est assez intéressant parce que on a, alors Hulk, au niveau de l'iconographie imaginaire, c'est un petit peu Dr. Jekyll versus Mr. Hyde. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la transformation Bruce Banner Hulk est réversible, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres créatures imaginaires ou réelles, en fait, dans la biodiversité. En termes de morphologie, Hulk, il est assez, je dirais, réussi entre guillemets parce que la taille, il est quand même assez grand et la musculature est encore plus grande. Parce que quand vous savez que si vous doublez de taille, votre masse ne va pas être multipliée par 2, forcément, elle va être multipliée par 2 fois 2 fois 2. Parce que la masse, c'est une notion volumique, alors que la taille est un paramètre en fait en deux dimensions. Et ça, souvent, on voit dans la science-fiction en fait, des trucs immenses qui, normalement, en termes de biomécanique, c'est-à-dire l'étude de la locomotion, du développement et des forces appliquées aux formes de vie ne sont guère viables. Je pense tout de suite à Godzilla, par exemple, qui est immense et qui grandit même au cours de l'histoire du cinéma, parce qu'il faut imaginer des monstres de plus en plus grands pour latter des villes et des tours de plus en plus hautes. C'est ce qu'on construit aujourd'hui, d'ailleurs. C'est la course à celui qui a la plus haute tour. Godzilla, en fait, alors, il fonctionne peut-être dans l'eau,
mais sur Terre, nucléaire aussi, d'ailleurs.
À l'énergie nucléaire, à l'intérieur. Et on pourrait citer d'autres, effectivement, êtres, d'autres créatures qui mutent ou qui se métamorphosent ou qui se transforment grâce à des radiations mutagènes. On pense à la chose, par exemple, aussi, à l'origine.
Mais les quatre fantastiques qui eux, ont acquis leur pouvoir en étant bombardés de rayons cosmiques. Et il faut savoir qu'en ce moment même, là, tous, on est bombardés par des rayons cosmiques. En fait, si vous mettez votre main comme ça, elle est bombardée par un rayon cosmique par seconde, en moyenne. Donc, c'est 100 000 rayons cosmiques par heure qui vous traversent. Alors, comme ça, c'est un demi, parce que la plupart des rayons cosmiques viennent de la verticale. Donc, si vous êtes très droit, vous en évitez un peu. Mais donc, nous, on est en permanence bombardés par 100 000 rayons cosmiques par heure. C'est peut-être pour ça qu'on est tous un petit peu fantastiques aussi.
Mais on est plus grand qu'on était quand on était petit, c'est peut-être ça. Hulk, mais lent.
D'ailleurs, après, effectivement, quel est le rôle de la radioactivité ambiante sur le taux de mutation des êtres vivants?
Il est important, il est très variable en fonction des environnements. Et ce qu'on observe dans le vivant terrestre, c'est que chaque espèce, finalement, a son propre seuil de tolérance de mutation ou de mortalité en fonction du taux de mutagène que l'on reçoit en fait dans l'ADN. Et le record dans la biodiversité actuelle, c'est une petite bactérie insignifiante, mais presque la bactérie super-héros en fait, de la biodiversité des bactéries, qui est capable de résister à une radioactivité. Enfin, son seuil de tolérance est quelques milliers de fois le nôtre. Et elle n'est pas détruite par ces rayonnements, par cette radioactivité. En fait, elle contient dans sa cellule, en fait, dans son ADN, des espèces d'éléments qui cicatrisent en permanence en fait, son ADN. Alors, ça fait rêver. On pourrait imaginer des humains qui disposent de l'ADN de cette bactérie super-héros et qui, du coup, sont immunisés, qui ont un seuil de tolérance beaucoup plus élevé que le nôtre. Bon, on est dans la science-fiction, bien sûr.
Par pure curiosité, est-ce qu'on parle des géobactères qu'on peut utiliser pour déradioactiviser de l'uranium, par exemple, le transformer en minéral normal? Parce qu'il y a des expériences... Il y a à plusieurs endroits là, qui travaillent sur des super bactéries qu'on a un peu modifiées parfois. Mais...
Alors, c'est le même groupe. Ce n'est pas tout à fait la même famille de bactéries. Mais on voit d'ailleurs le côté finalement puissant des bactéries dans la biodiversité. Les bactéries sont des organismes en fait, que l'on semble apprendre. Enfin, on découvre en fait, finalement cette grande biodiversité. Mais les bactéries étaient là il y a des milliards d'années sur Terre et sans doute quels seront les derniers organismes extrémophiles à résister d'ici 5 milliards d'années, si on ne détruit pas la planète avant, à la désintégration totale de la Terre par explosion, entre guillemets, en fait, dans notre étoile qui est le Soleil. Mais on a encore 5 milliards d'années devant nous, donc ça va.
En parlant de transmutation, je reviens sur cette thématique-là. Je pensais aux trolls qui n'aiment pas la lumière et qui se transforment en pierre si jamais ils voient la lumière du soleil. C'est bien les trolls, je ne me trompe pas. Et avec certains auteurs qui s'amusent très gentiment en imaginant que ça se produisait vraiment et en disant « mais planquez-vous dans les parages, planquez-vous loin », parce qu'une transformation de chair en pierre très rapide, ça émet pas mal de rayonnement. Alors justement,
c'est une théorie entre guillemets de Charles Stross dans ses romans sur la laverie, où en fait ils ont une espèce d'arme terrible. C'est la magie là-bas, c'est une sorte de mélange entre de la technologie et de la magie, avec des soupçons de Cthulhu en plus. Et en fait, il imagine une arme qui transforme en fait nos noyaux de carbone en noyaux de silicium. Alors chimiquement, on est sur la même ligne de la table de Mendeleïev, vous voyez, c'est-à-dire que le carbone et le silicium ont le même genre de propriétés chimiques, Par contre, effectivement, dans la transformation, effectivement, la roche est essentiellement composée de silice, donc on se transforme en silice, et en plus, on a dégagement d'énergie, puisqu'on a là une vraie transformation nucléaire. Et pour enchaîner sur la transformation nucléaire, c'est vrai que nous, physiciens nucléaires, nous, on est des pros de la transmutation, hein. On est des alchimistes modernes. C'est-à-dire que c'est assez simple. À partir du moment où vous avez compris que la matière, en fait, donc c'est des atomes avec des noyaux d'atomes, vous avez un nombre de protons qui détermine le nombre d'électrons qui tournent autour, parce que les protons sont chargés positivement, les électrons négativement, la matière est neutre, donc il faut autant d'électrons que de protons. Donc en fait, votre nombre de protons détermine le nombre d'électrons qui détermine les propriétés chimiques. Donc inversement, si vous changez le nombre de protons, vous changez d'élément chimique. Et par exemple, transformer le plomb en or, c'est extrêmement simple. Bon, il suffit d'avoir un accélérateur. Mais vous prenez du plomb, vous balancez dessus par exemple des particules à très haute énergie, même des simples protons, ça peut suffire. Et en fait, le plomb, c'est 82 protons. Et l'or, c'est 79 protons. Donc il suffit d'arracher à vos noyaux de plomb 3 protons. Et dans ce cas-là, pouf, vous transformez le plomb en or. C'est fantastique.
Oui, qu'est-ce qui se cache derrière le pouf ?
Alors oui, il faut faire fonctionner votre accélérateur. Donc ça, c'est un certain coût. Et je pense que vous allez créer tellement d'or qu'il vaut mieux bêcher dans votre jardin au hasard et vous en aurez plus.
Et puis l'or est un peu radioactif, non ? L'or obtenu ?
Éventuellement, oui.
Alors,
c'est un détail.
Nous, on n'est pas aussi riches que les physiciens, paléontologues, mais pour la transformation entre la matière organique et la matière minérale, donc dans l'autre sens que l'origine de la vie, finalement, on attend patiemment des millions d'années que la fossilisation fasse son temps, fasse son œuvre, et que les squelettes ou la partie organique en fait, des restes vivants se transforment lentement en, fait, en matière minérale. C'est ce qu'on appelle la perminéralisation. C'est une sorte de pétrification qui est inhérente en fait aux fossiles. Quand on parle de squelettes de dinosaures, c'est un abus de langage. Ce ne sont pas des squelettes, c'est plus de l'os. Ça ressemble à de l'os, mais c'est de la pierre en fait, et de la pierre qui, de la matière minérale qui est venue percoler, rentrer dans toute la structure en fait ancienne de l'os. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si ça reste de la pierre, on a toutes les structures internes qui sont préservées, comme si c'était de l'os frais, finalement, et qui nous permettent en fait, d'en savoir beaucoup sur les modes de vie des organismes fossiles, les stries de croissance, leur rythme de croissance, etc.
Mais on transmute tous les jours. Moi, ce midi, pour déjeuner, j'ai mangé un tartare qu'on a préparé devant moi. D'ailleurs, c'était vraiment spectaculaire. J'avais de la vache devant moi, et à la fin du repas, il n'y en avait plus. Hein. Et cette vache-là est, du moins en partie, maintenant du moi. Hier, on a transmuté quelques bières, et ce matin, dans l'univers, il y avait un peu moins de bière et un peu plus de moi. Et c'est tout vrai, c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai.
La transmutation, dans ce sens-là, ça a du bon, finalement, surtout avec la bière.
Et c'est pas radioactif, en plus.
Mais trêve de plaisanterie, ça fait penser au principe de je ne sais plus quel physicien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Lavoisier.
Et on est typiquement là-dedans. Alors c'est sûr qu'avec la bière, c'est plus agréable d'en parler.
Mais dans un de mes romans, où, un moment d'ailleurs, où j'essaie d'avoir l'air un peu intelligent, j'ai un personnage qui explique que notre essence, en fait, n'est pas dans la matière, parce que tout en est fait, et ça finit par être la même chose, mais est dans, en fait, il dit que nous sommes une configuration moléculaire stable à la température de la pièce, mais que l'essence, elle est dans l'information elle-même, dans la configuration et dans l'information, plus que dans la matière qui, dans le fond, est la même pour si on décompose en trucs assez petits pour n'importe quoi, dont la bière et moi.
Il me semble qu'il y a beaucoup plus de configurations neuronales que d'étoiles dans l'univers, hein, donc pour un seul cerveau.
Et finalement, le changement, c'est quelque chose de constant, si je puis me permettre ce paradoxe-là, dans l'évolution aussi, en termes organiques. L'évolution, c'est quoi ? C'est de la production, entre guillemets, de variété, de différence, et puis la sélection naturelle retient ou pas certaines formes de vie. Sans cesse, ça se voit entre deux générations chez nous. On ne fait pas des clones, on ne se reproduit pas par clonage. Le clonage existe chez les plantes notamment ou chez d'autres espèces. Mais le brassage génétique fait que chaque génération est différente et une certaine morphologie au bon endroit, au bon moment, peut être retenue par la sélection naturelle. Et plusieurs morphologies dont la reproduction est viable définissent une nouvelle espèce finalement. Et c'est comme ça que l'évolution est buissonnante et n'arrête pas de changer, en fait, comme les atomes du tartare ou les atomes de bière que l'on ingurgite régulièrement. Au cours de notre évolution à nous, finalement.
Peut-on imaginer avoir des êtres vivants, des êtres humains qui évoluent, pas forcément vers le loup-garou, mais qui se spécialisent avec un sens qui se développe plus intensément qu'un autre, par exemple, dans un autre environnement ?
On peut les imaginer, en tout cas.
Oui, il faudrait demander au prof de sorcellerie d'Harry Potter si ça existe vraiment, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant de les décrypter au regard des sciences. Ce sont des transformations qui sont... c'est des sortes de métamorphoses, en fait. Les thériomorphes, je crois, ça s'appelle dans la littérature, enfin dans la culture des mondes imaginaires. On a différents types de thériomorphes. On a des hommes-garous, enfin des loups-garous. On a des hommes qui se transforment en ours aussi. On pense tous à Béorn dans le monde de Tolkien. Et il y a des humanoïdes, enfin des humains en général, ou des personnages humanoïdes fictifs qui se transforment en bêtes. D'où le terme, je crois, de thério, parce que thérium, c'est la bête, et morph, c'est la forme, qui a la forme d'une bête. Et donc, ce sont des métamorphoses qui sont... qui vont dans les deux sens, qui sont réciproques, parce que quand la lune décroît, le pauvre loup-garou se retransforme en humain mortel. C'est rare, par contre, d'observer des métamorphoses réversibles dans le vivant.
Est-ce que le saumon, par exemple, qui passe de l'eau salée à l'eau douce, dont la morphologie change complètement. Là, si on les découvrait un bout et à l'autre, on n'aurait aucune raison de penser que c'est la même espèce. Il me semble que c'est le plus proche de Hulk qu'on va trouver dans la nature.
Mais... Oui, sauf qu'un saumon adulte ne redevient pas un petit alevin océanique. Mais effectivement, en paléontologie, on s'est planté plusieurs fois parce qu'on décrivait une forme fossile. Une grande forme fossile, par exemple, on mettait un nom de genre, un nom d'espèce, et puis on trouvait une petite forme, éventuellement ailleurs, dans la même couche sédimentaire, mais dans une autre localité. Il n'y avait pas les mêmes caractères, et nous, on a une version, une définition, finalement, qu'on appelle typologique de l'espèce, parce qu'on n'a pas un groupe d'individus observable il y a 300 millions d'années en train de se reproduire et dont la descendance est viable. Donc notre notion des espèces, d'espèces est définie en fonction d'une liste de caractères squelettiques ou autres qu'on appelle une diagnose et qui varie en fonction un petit peu des auteurs. Mais on s'est déjà planté plusieurs fois en faisant deux espèces différentes de différents stades de croissance qui appartiennent en fait à la même espèce finalement.
Oui, il n'y avait pas de bébé dinosaure dans aucun musée. Là. Il n'y avait que des petits dinosaures et des gros dinosaures.
Effectivement, l'exemple est classique avec le genre Nanotyrannus. C'est un petit tyrannosaure en fait, que l'on a découvert, je crois, en Amérique du Nord ou en Mongolie, qui, après réexamen de la pièce, s'est trouvé être en fait, un crâne de Tyrannosaurus rex, mais un crâne juvénile dont les sutures n'étaient pas tout à fait fusionnées, il y avait des caractères qui changeaient. Et les premiers paléontologues au siècle dernier qui ont décrit ce crâne-là pensaient avoir affaire à une autre espèce, voire même un autre genre de tyrannosauroïde, enfin de cousin du tyrannosaure. Et c'est comme ça finalement qu'on avance, c'est qu'on fait des erreurs, on les corrige. Alors, ça fait toujours moins mal quand on fait de l'autocorrection que quand c'est un autre collègue qui nous corrige et qui nous tape un petit peu sur les doigts en disant « Ah, regarde, t'as pas vu tel caractère, en fait, c'est pas cette espèce-là, mais c'est l'autre. » Mais effectivement, tout est changement et quand on est dans les strates géologiques et dans les formes de vie fossiles, il faut faire attention aux variations et voir, essayer en tout cas de voir si ces variations-là correspondent pas tout simplement à des variations qu'on appelle intraspécifiques, que l'on ne peut pas voir à l'état fossile, mais que les formes de vie vivantes peuvent nous aider, elles peuvent nous renseigner sur certaines petites variations au sein d'un même échantillon.
Oui, pour en revenir effectivement sur ce que tu disais sur les transmutations irréversibles, c'est exactement ce qu'on observe dans la radioactivité, où en fait, si une particule peut se désintégrer en une autre particule, alors il y a un certain nombre de lois à suivre, mais en tout cas, la loi principale, c'est une loi de conservation de l'énergie, c'est-à-dire que la particule initiale doit avoir plus de masse que toutes les particules qui sont créées lors de la désintégration. Donc au fur et à mesure, donc c'est vrai pour les particules élémentaires, les neutrons, les protons, mais c'est même vrai pour les noyaux. Donc c'est-à-dire qu'un noyau va se désintégrer en un autre noyau qui aura moins de masse, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur un noyau stable. Et un noyau stable, c'est simplement un noyau qui n'a nulle part où se désintégrer. C'est-à-dire qu'il ne va pas trouver d'autres noyaux en respectant ces lois de conservation dans lesquels il puisse se transformer. Et c'est pour ça qu'on a tous ces noyaux stables qui sont autour de nous, heureusement.
En parlant de ça, ça me fait penser à Opération Chaos de Poul Anderson, qui est un ouvrage entre science-fiction et fantasy. Il adorait jouer avec les genres et surtout montrer que ce n'était pas facile de classer un roman dans un genre ou dans l'autre. Et là, on a un monde où la magie existe, mais où la magie est utilisée de façon scientifique. Et donc, on a des personnes capables de se transformer en animaux. Simplement, il faut respecter... Enfin, la transformation en animal est liée aussi à la conservation de la masse. Et donc, on peut se transformer en ours si on est gros et costaud. On peut se transformer en gentil félin si on est plutôt une jeune femme assez légère. Et le problème, c'est que lorsque l'animal est mutilé, lorsqu'il lui arrive une petite histoire, la question, c'est qu'il y a eu de la masse de perdu. Mais quelle est la partie du corps qui, en échange, se trouve transformée? Et donc, il y a vraiment un jeu sur la conservation de la matière. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur masse, équivalence masse énergie? Et le problème, justement, si on transformait un homme de 70 kilos en animal qui en pèse 60, par exemple?
Là, on a donc c'est le fameux E égale MC2, et on a des donc si on change vraiment la masse, c'est un équivalent, surtout la masse macroscopique, hein, c'est un équivalent d'une énergie absolument extraordinaire. Par exemple, si on désintégrait complètement, alors par exemple pendant la fission de l'uranium dans les réacteurs nucléaires, justement, on a de la masse qui se transforme en énergie. En énergie cinétique des particules qui sont émises, il y a aussi des photons gamma, c'est-à-dire des particules de lumière de très haute énergie qui sont émises, donc qui vont chauffer l'environnement. Et en fait, si je me rappelle bien, si on fait fusionner 1 gramme d'uranium complètement, on a assez d'énergie pour produire 12 millions de bains chauds. C'est une unité très très bizarre, je sais, mais on se rend bien compte de ce que ça fait.
Mais c'est comme ça que je calcule tout, moi. Si vous aimez les romans avec ce jeu entre le fantastique et la science, je ne sais pas s'il existe en français, il est même hors presse, mais il existe encore en e-book en anglais. C'est un roman qui s'appelle The Steerswoman. C'est une série, en fait, il y en a plusieurs, de Rosemary Kirstein. Et elle vit dans un monde fantastique, il y a des magiciens, il y a des dragons. Mais elle utilise la méthode scientifique pour expliquer des phénomènes. Et dans le fond, son travail, c'est de transformer un monde fantastique en monde de science-fiction. Et c'est fait de façon très intelligente. Et elle a une prose qui est magnifique aussi. Alors, je suggère à tout le monde.
À lire dans un bain chaud accompagné d'une bonne mousse. C'est ça?
Transmutons.
Mais l'espèce de... Enfin, ce style hybride, finalement, entre science-fiction et fantasy, le steampunk en est pas loin, peut-être. Enfin, je suis pas un spécialiste du steampunk, mais il s'agit de faire voler des engins improbables, très, très lourds en termes de masse, grâce à une sorte de fluide qui est assez récurrent dans les œuvres de steampunk, qui permet en fait un petit peu tout d'une manière magique. Alors qu'on est dans un monde très techno, certes à base de grosses machines à vapeur et autres, mais qui défie finalement les lois de la gravité grâce à ce fluide un peu magique, verdâtre souvent, ou jaunâtre, qui permet des choses complètement délirantes finalement, mais intéressantes dans le cadre du steampunk, bien sûr.
Ça rejoint peut-être un peu la notion d'éther qu'on avait au 19e siècle, justement, avant qu'on comprenne que tout n'était que vide. Donc on s'imaginait qu'il y avait cette espèce de matière d'éther, et en fait la lumière se propageait dans cet éther. Et donc on essayait justement désespérément de trouver, parce que l'éther, donc si c'était une matière autour de nous, ça veut dire qu'on se déplaçait dans l'éther. Et donc on a essayé plein de fois de mesurer justement la vitesse de cet éther qui devait... L'éther aurait été une sorte de vitesse absolue. Et en fait, on s'est rendu compte, d'abord avec les équations de l'électromagnétisme à la fin du 19e siècle, où on a compris le couplage entre la lumière, les champs magnétiques, les champs électriques, et ensuite après, avec justement la relativité restreinte d'Albert Einstein, qu'en fait, il n'y avait pas d'éther, que la lumière se déplaçait dans le vide, et qu'il n'y avait pas de repère universel, mais que chaque personne ou objet en mouvement pouvait définir son propre repère. Donc l'éther n'existe pas, malheureusement. Mais il y a d'autres choses qui apparaissent aujourd'hui, justement dans l'expansion de l'univers qui s'accélère. On voit la fameuse constante cosmologique que certains appellent quintessence. Enfin, il y a plein de théories qui essayent d'étudier ce phénomène et qui pourraient faire apparaître, peut-être, ressurgir l'éther sous une nouvelle forme.
On parlait de transmutation, on parlait un peu de magie et d'effet de la magie, juste pour le plaisir de vous partager une idée de Poole Anderson dans ce fameux monde. Typiquement, les gens qui sont malades et qui ont des bactéries qui font pas ce qu'il faut, essentiellement, on amène quelqu'un qui est porteur du mauvais sort et on lui fait regarder par un microscope ces bactéries qui, du coup... que du coup attrapent le mauvais sort et disparaissent, enfin sont détruites. Donc c'est une façon assez efficace de stériliser les bactéries. On parlait de mutation, tu nous disais, Jean-Sébastien, que certaines bactéries sont capables de se protéger en refaisant leur ADN en permanence. Les mutations de bactéries, les mutations au sein du corps sont essentiellement dans... En tout cas, chez nos super héros, une façon assez classique de se transformer. Est-ce que c'est des choses envisageables ? Est-ce que ce serait des choses ? Enfin, est-ce qu'on connaît des situations dans lesquelles des bactéries, d'une façon ou d'une autre, ont modifié significativement la forme physique d'un animal ?
Oui. C'est arrivé en tout cas au moins plusieurs fois il y a environ 4 milliards d'années sur Terre, où des bactéries ont commencé à phagocyter, donc à ingérer en fait d'autres bactéries, et puis elles se sont arrêtées en se disant mais bon, ce que je viens de bouffer peut servir de nutriments, certes, mais peut me servir à autre chose. Alors je caricaturise, une bactérie ne pense pas, ne parle pas, mais c'est la naissance en fait du chloroplaste dans la cellule végétale ou de la mitochondrie. Donc au lieu d'ingurgiter, de dissoudre et de manger, de transformer ça en nutriments, la bactérie en fait, a utilisé cet objet nouveau, phagocyté, à des fins de centrale énergétique.
D'exploitation.
Quelque part, oui, ou d'endo, c'est la théorie endosymbiotique. Il y a plutôt une symbiose. Alors entre parasitisme et symbiose, il y a beaucoup en fait de formes de vie et de gradients différents du commensalisme, c'est-à-dire association réciproque ou une pseudo-association qui va que dans un sens. Donc là, on est dans le cas du parasitisme, ou alors une association qui va constamment dans les deux sens. Donc là, on est dans le cadre de la symbiose. En fait, en contrepartie, la bactérie ingurgitée a eu le gîte et puis le couvert. Et a fourni en fait l'énergie nécessaire pour que l'autre puisse se développer peut-être un peu plus rapidement que les autres. Et ça a donné naissance finalement aux animaux d'un côté avec les mitochondries et puis aux chloroplastes, donc aux plantes en fait, aux grands arbres de la vie, hein, du côté des eucaryotes, en ce qui concerne cette espèce d'association ou de transformation associée aux bactéries.
Mais nous-mêmes, les humains, est-ce qu'on aurait la même physionomie si on n'avait pas tout cet appareil de micro-vie qui travaille pour nous à faire toutes sortes de choses? Probablement pas.
Ah non, on ne pourrait pas vivre. En fait, on a dans notre corps, dans notre propre corps, on a à peu près 2 kilos de bactéries. Moi aussi, hein, j'ai 2 kilos de bactéries. Enfin, c'est un peu variable en fonction de votre indice corporel. Mais c'est des millions d'espèces différentes associé en fait à votre soit tube digestif, soit système urogénital, soit épiderme aussi, elles sont partout. Il y en a avec lesquelles on peut vivre et digérer beaucoup de sortes de choses comme des tartares par exemple ou de la bière. Fallait pas me lancer sur ce sujet-là, en fait. Et puis, d'autres, par exemple, qui ne fait pas très bon croiser hors de leur contexte. Hein, une bactérie, par exemple, intestinale, enfin, je pense à Escherichia coli, par exemple, qui va rentrer dans le système sanguin. Bon, ça commence à sentir la septicémie. Donc, des bactéries, oui, mais à leur place, quoi. Et tout va bien. Mais effectivement, sans elle, on ne pourrait pas vivre.
Ou si on existait, on aurait une forme complètement différente parce que ça ne pourrait pas fonctionner comme ça, en tout cas.
Exactement.
Il y a des bactéries, me semble-t-il, qui sont capables de filtrer les métaux lourds. On va revenir un peu sur la physique, mais en croisant les deux. Et de les isoler, en tout cas de les trier, d'éviter qu'ils soient nocifs pour une plante typiquement, mais pour nous aussi de les récupérer. Est-ce que ce sont des choses qui interrogent ou qui amusent le physicien lorsqu'il voit des biologistes s'intéresser aux métaux lourds de cette façon?
Alors ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement dans les endroits où il y avait eu des relâchements de radioactivité, par exemple à Tchernobyl, la radioactive, les métaux lourds, parce que c'est essentiellement des césium, des choses comme ça, donc c'est des métaux lourds qui vont aller se concentrer dans certains végétaux. Et j'avais vu des gens qui effectivement étudiaient la possibilité de cultiver ces types de végétaux dans des sols contaminés, de manière à pouvoir les concentrer, et ensuite on récupère les végétaux de manière à pouvoir évacuer la radioactivité et la confiner hors de portée de l'environnement, quoi. Donc là, on a un croisement entre la chimie et le nucléaire, puisque on utilise les propriétés chimiques d'éléments qui sont radioactifs. Ce qui est tout à fait compatible, c'est deux niveaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même élément chimique avec différents isotopes. Donc, par exemple, le carbone 12, il est tout ce qu'il y a de plus stable, c'est ce qui constitue la matière carbonée tout autour de nous, et vous ajoutez deux neutrons à votre carbone 12, vous avez du carbone 14 qui lui est radioactif avec un temps de vie de 7000 ans, un temps de demi-vie, c'est-à-dire qu'il va se désintégrer. Enfin, vous avez 100 grammes de carbone 14, au bout de 7000 ans, vous n'avez plus que 50 grammes de carbone 14. Donc, juste en ajoutant deux neutrons, vous allez complètement changer les propriétés nucléaires de votre noyau, mais par contre les propriétés chimiques sont les mêmes, et c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser le carbone 14 comme outil de datation, par exemple dans les anciens objets organiques.
C'est ce que les géobactères font avec le matériel radioactif. Ils ajoutent ou ils enlèvent un électron en se nourrissant. Je me souviens plus dans quel sens, mais
par contre, là, ouais, en termes de niveau d'énergie, on a justement le niveau d'énergie nucléaire. En gros, l'énergie de liaison dans le noyau, c'est à peu près 1 million de fois supérieur à l'énergie de liaison des électrons. Donc, en fait, on peut complètement, on peut toucher, on peut affecter. Les réactions chimiques vont pouvoir affecter les électrons, donc transformer des éléments chimiques. On ne va pas avoir de transformation d'éléments chimiques. On peut changer le composé chimique. Qui peut avoir des propriétés complètement différentes. Hein. Par exemple, vous avez le HCl, acide chlorhydrique, hein, c'est très mauvais, et vous avez le NaCl, le sel de table, excellent. Enfin, avec modération, bien sûr.
Par contre, transformer le plomb en or dans son assiette, ça non.
Alors effectivement, c'était le grand rêve des alchimistes, mais comme je dis, si vous faites des réactions chimiques, vous n'atteindrez jamais les niveaux d'énergie nécessaires pour faire les réactions nucléaires qui, elles, sont nécessaires pour transformer ce plomb en or, justement.
Un ou deux bains chauds, plutôt que 20 millions.
Voilà. Alors par contre, du point de vue, alors ce qui est assez rigolo, c'est que du point de vue, effectivement, du chimiste, l'or, c'est le métal noble, et le plomb, le métal vil, hein. L'or, ça s'oxyde très peu, alors que le plomb, au contraire, ça s'oxyde très vite. Pour le physicien nucléaire, c'est l'inverse. En fait, le plomb est ce qu'on appelle un noyau doublement magique, c'est-à-dire qu'il est particulièrement stable d'un point de vue nucléaire et plus stable que l'or.
Donc, on vous donne à choisir entre de l'or et du plomb. Vous choisissez sans discussion du plomb.
Non. Ça se négocie autrement après.
Les chimistes aiment bien le platine aussi. Les chimistes aiment bien le platine parce qu'il est très inerte. Est-ce que pour vous, c'est un métal qui a des propriétés particulières ?
Nucléairement parlant, non. Non, je ne pense pas. C'est aussi un peu, c'est dans la région aussi de l'or, c'est pas très loin. Donc, c'est un peu. Non, pour nous, le pinacle, d'ailleurs, le noyau le plus lourd qui existe, c'est ce qu'on appelle le plomb 208, c'est-à-dire le plomb avec 82 protons et 126 neutrons. Et c'est effectivement c'est le noyau le plus lourd qu'on peut trouver et stable qu'on peut trouver dans la nature.
Mais il est fabriqué facilement. Enfin, il vient des étoiles. Il vient d'où ce plomb ?
Oui, tout à fait. Il vient des étoiles. Alors on sait qu'il y a une proportion de plomb qui vient dans des très grosses étoiles. En fait, on va synthétiser notre plomb à partir d'éléments légers, très très progressivement. En fait, un élément léger, hop, absorbe un neutron. Le neutron va se transformer en proton, donc on va faire un élément chimique un peu plus lourd et ainsi de suite. Tac tac tac, on peut remonter jusqu'au plomb dans certaines étoiles. Mais en fait, la majorité des éléments lourds va être formée là dans les creusets des phénomènes cosmiques extrêmement violents. Par exemple, les supernovas. Donc dans une supernova, en fait, vous avez des éléments qui sont lourds, mi-lourds, disons. Hein. Mais brutalement, vous allez avoir des flux de neutrons titanesques qui vont faire qu'en l'espace de quelques secondes, vos noyaux vont absorber plein de neutrons. Et ils en auront trop, donc les neutrons vont se transformer en protons. Et donc là, on va produire plein d'éléments lourds. Et récemment également, on s'est aperçu, donc on pensait, jusqu'à quelques années, que c'était vraiment le site principal de formation des éléments lourds qui nous entourent. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a un autre site qui pouvait être très important, c'est quand vous avez deux étoiles à neutrons. Donc les étoiles à neutrons, c'est des étoiles qui sont composées de neutrons. Là, je suis en train de dire un truc super original. Enfin, grosso modo, c'est ça. Mais vous pouvez avoir des systèmes binaires de deux étoiles à neutrons et les étoiles à neutrons vont collisionner. Et dans la collision, en fait, il va y avoir des éjectats de matière de neutrons. Et autant ils peuvent être stables dans l'étoile à neutrons à cause de la force de gravitation, autant dès qu'ils sont éjectés, les neutrons vont se transformer en protons et on va avoir aussi production de tout un tas d'éléments chimiques lourds. Et on pense que c'est aujourd'hui une proportion significative de ces éléments lourds qui viennent de ces collisions d'étoiles à neutrons. Et il y a eu une preuve magnifique de ce site de production il n'y a pas longtemps, justement avec la découverte des ondes gravitationnelles, où on a observé alors, non seulement la déformation de l'espace-temps due à la collision de deux étoiles à neutrons l'une avec l'autre, donc c'est tellement un acte tellement puissant que ça fait vibrer l'espace-temps, et on est capable de détecter la vibration de cet espace-temps, et au même moment, on a détecté les photons émis par les éléments lourds qui étaient créés lors de cette collision. Donc ça a été une preuve magnifique qu'on avait au moment de cette collision d'étoiles à neutrons, la production d'éléments chimiques lourds qu'on va retrouver après dans notre environnement.
Il a fallu à peu près combien d'explosions de supernova pour faire la Terre ?
C'est une bonne question.
C'est une question.
Un certain nombre.
Je ne vous dis pas la quantité pas. De bain chaud. Hein.
C'est le sauna, carrément.
Il est 16h38, on a une bonne vingtaine de minutes ensemble encore à passer. Je vous propose, si vous le souhaitez, que vous posiez des questions à nos invités. Je vois déjà une main se lever. Est-ce que c'est possible de faire passer le micro ? Merci.
Oui, bonjour, chers collègues. Je suis ingénieur nucléaire au CEA de Cadarache. Donc, pour tout ce qui est des. Moi, je ne le fais pas, mais tout ce qui est des collègues qui travaillent sur les bactéries, c'est un institut qui s'appelle le BIAM, B-I-A-M. Vous allez regarder sur Internet, vous allez trouver tout un tas de choses dessus. Alors, il y a un truc qu'il faut vraiment préciser pour bien clarifier auprès des gens, c'est que les bactéries ne vont pas faire de réaction nucléaire. Elles ne vont pas pouvoir les détruire, les éléments. Elles vont pouvoir éventuellement les concentrer, c'est ce qu'on recherche. Comme par exemple faire des blés modifiés et de faire en sorte par exemple que sur l'amidon, il porte plus par exemple de plutonium si on veut déplutonifier Tchernobyl. Et on retrouve un peu le système de la bière, c'est-à-dire que la bière, pour les levures, elles ont été sélectionnées pour faire le plus d'alcool possible, mais au bout d'un moment, ça les fait crever, parce que l'alcool, c'est toxique. Et bien, c'est pareil, le plutonium, en général, c'est pas très sympathique, et tout un tas de saloperies radioactives, on essaye de cultiver ces bactéries pour qu'elles réussissent à résister le plus longtemps possible pour se charger le plus en radioéléments. Alors vient le second problème, c'est une fois qu'on a concentré des cochonneries, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'il y a deux stratégies quand on a des éléments radioactifs. Enfin, il y en a trois. Le troisième, c'est ton métier, c'est les transmuter. Mais ça coûte très, très, très cher. Parce que c'est une énergie 1 million de fois plus élevée que l'énergie chimique. Donc, par exemple, quand vous voulez avoir de l'or, de l'or radioactif. Il va falloir mettre 1 million de fois plus d'énergie que tout le pétrole que vous avez utilisé pour aller remuer la terre, les réactions chimiques pour aller récupérer de l'or. Donc en général, ce n'est pas très intéressant. Il y a extrêmement peu d'éléments qui sont récupérés par la transmutation. Aujourd'hui, vous allez avoir des choses qui sont à usage militaire. C'est-à-dire pour faire des bombes H, vous avez besoin de tritium. Et le tritium, en général, vous l'avez pas, vous en avez quelques pouillèmes sur Terre. Donc vous allez irradier des barreaux de lithium dans des réacteurs nucléaires et récupérer le tritium derrière. Vous allez avoir tout ce qui est issu de la fission de l'uranium. Tu en avais un peu parlé. Par exemple, il y a des gens ici qui ont peut-être eu des scintigraphies. Mais les scintigraphies, c'est vous récupérez du technétium-99 qui n'existe pas dans la nature. Et c'est un des usages de la transmutation en fait, qu'on fait aujourd'hui. Voilà, enfin, c'était juste un petit aparté.
Vous ne nous avez pas dit, les bactéries pleines de plutonium, on en fait quoi?
Bah, justement, le problème, c'est que c'est assez compliqué. C'est entre la recherche fondamentale pour trouver la bactérie qui va se concentrer et après trouver comment on va utiliser la bactérie au moment où elle l'a concentrée pour pouvoir l'utiliser et la détruire, c'est encore un autre métier. C'est plutôt l'ordre de l'ingénieur agronome qui, lui, va récupérer et le traiter. Celui qui va traiter derrière, c'est plutôt être un chimiste ou un spécialiste des déchets nucléaires. Donc, c'est des métiers qui sont assez différents. Donc, c'est malheureusement très compliqué. Et il y a une réflexion à faire en amont. Est-ce qu'il vaut mieux laisser le plutonium sous la Terre où il ne va pas trop bouger? Donc, ça, c'est des choses qu'on a constatées sur un réacteur nucléaire naturel. Il y a à peu près 4 milliards d'années, il y a un réacteur nucléaire qui s'est allumé spontanément au Gabon. Et on a constaté en fait, que les éléments lourds ont très, très peu migré des endroits où il était. Donc c'est soit le laisser sur place, même si ce n'est pas très sympathique, soit essayer de le récupérer avec les végétaux, mais au risque, si vous avez un incendie à Tchernobyl, vous allez avoir tout un tas de saloperies qui vont se balader dans l'atmosphère et qui vont se balader dans toute l'Europe. Donc c'est difficile, parce que vous avez le choix entre deux mauvaises solutions et vous devez choisir entre la moins pire des deux. Il n'y a pas de bonne solution, malheureusement.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai lu un peu sur les géobactères parce que j'en avais besoin pour désactiver des robots géants qui fonctionnent à la radioactivité. Puis ça déstabilisait le processus, puis ça fonctionne très bien.
Je ne sais plus dans quel épisode de Godzilla, ils utilisent je ne sais plus quel truc pour enlever l'énergie nucléaire de Godzilla. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. Alors, pour en revenir effectivement à ce que monsieur dit tout à l'heure, effectivement, une des solutions alors, à long terme qu'on envisage pour les déchets nucléaires, c'est ce que c'est la transmutation. C'est-à-dire que le problème des déchets nucléaires, c'est que vous avez tout un tas de produits qui sont créés après l'utilisation du combustible dans la centrale, qui sont des déchets radioactifs à durée de vie très très longue. Ça peut être des milliers d'années. C'est très difficile d'imaginer d'avoir un mode de conservation qui soit stable et pérenne sur des milliers d'années. Donc, une possibilité, alors effectivement, c'est extrêmement exploratoire, ça reste du domaine de la recherche, ça serait de prendre ces déchets de vie très longue et en fait de les casser en deux, de les faire fissionner. Dans ce cas-là, on obtiendrait des noyaux plus légers dont les temps de vie seraient plus courts. Et donc là, on aurait des temps de vie qui sont plus l'ordre de la dizaine d'années. Disons que c'est gérable au niveau d'une civilisation. Mais comme disait monsieur, c'est effectivement des choses qui sont extrêmement exploratoires, c'est des choses complexes, il y a plein de problèmes, il y a des problèmes physiques déjà, comprendre les réactions qui permettent ces transmutations, et plein de problèmes technologiques à gérer également.
Bref, il faut mieux éviter d'être confronté aux problèmes. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Si vous n'avez pas de questions, on va continuer à papoter, vous savez. C'est amusant. Ah si.
Tout à l'heure, quand on évoquait les métamorphoses dans la nature, en dehors des romans,
un tout petit peu plus fort.
Tout à l'heure, quand on a évoqué les métamorphoses dans la nature, donc en dehors des romans, vous avez dit dans la plupart des cas, c'est pas réversible. Je me suis demandé, la plupart, ça veut dire que dans certains cas, ça l'est.
Certains caractères le sont, mais pas l'organisme complètement. C'est-à-dire que les métamorphoses, on les observe depuis les premiers naturalistes, finalement. Hein, les têtards après métamorphose, têtards, donc qui sont des amphibiens au stade larvaire, aquatiques, herbivores ou détritivores, qui après métamorphose se retrouvent rapidement être des grenouilles, donc des amphibiens adultes. Carnivores et terrestres. Donc on a un changement de mode de vie, un changement de régime alimentaire, un changement drastique qui est fait au cours du développement en un temps assez réduit, d'où le terme de métamorphose, en fait, hein, et c'est ce qu'on observe aussi chez certains insectes. On parle, je crois, d'holométabole, je ne suis pas un spécialiste de l'évolution des insectes, mais cette présence d'ailleurs de métamorphose rentre en compte dans la classification des insectes en question ou dans la phylogénie en fait, des insectes. On passe de l'état d'asticot, par exemple, à l'état de mouche, hein, de l'insecte en fait, adulte, après métamorphose. Et ce qu'on peut observer, ce n'est pas une réversion totale, c'est-à-dire une mouche ne va jamais redevenir un asticot, comme une grenouille ne va jamais redevenir un têtard, mais on observe de temps en temps, dans certains cas, des rétentions de caractère larvaire. Ça s'appelle des hétérochronies du développement en jargon biologique, où la grenouille, par exemple, est contrainte à rester en milieu aquatique, et elle va conserver grosso modo cette forme un petit peu de têtard, mais avec la possibilité de se reproduire. Donc il y a conservation de certains caractères anatomiques larvaires, mais capacité en fait de reproduction. Et ça, ça peut générer des espèces nouvelles. En termes d'évolution des espèces, c'est vachement intéressant et c'est connu depuis au moins le 19e avec un embryologiste allemand qui s'appelait Ernst Haeckel, qui a un des premiers essayé en tout cas de faire des corrélations entre le développement des individus et l'évolution des espèces. Alors à grande échelle, ça ne marche pas parce que l'ancêtre des insectes, ce ne sont pas des asticots. L'ancêtre des amphibiens, ce ne sont pas des têtards, mais on observe par exemple au cours de notre développement à nous, quand vous êtes à l'état embryonnaire, des fentes branchiales qui sont résorbées rapidement après au cours de l'embryogenèse et qui correspondent en fait aux fentes branchiales conservées chez les poissons et qui nous indiquent en fait une origine commune entre vertébrés tétrapodes que nous sommes et puis les autres vertébrés aquatiques comme les poissons.
Est-ce que cela a déclenché des questions? Ah, oui, deux.
Oui, au niveau de la biologie, il y a eu pas mal d'avancées avec les ciseaux moléculaires pour couper l'ADN, rajouter des bouts. Je me posais la question, quand est-ce qu'il y aurait un humain qui allait commencer à pirater son ADN pour pouvoir... rajouter des protéines ou changer rajouter des éléments codants de l'ADN pour rajouter des protéines ou ôter des parties dysfonctionnelles.
Alors on voit ça dans, pas sur les humains, mais dans l'Afronanar récent, là, Rampage, où il y a des manipulations génétiques à base de CRISPR, justement, de ciseaux moléculaires, et puis ça fait des monstres. Gigantesque en fait. Ces CRISPR-là sont juste des prétextes, bien sûr, à la fiction. Après, en ce qui concerne les applications sur l'humain, ne serait-ce que le clonage, par exemple, on est capable, depuis la Dolly brebis, de faire du clonage sur des mammifères, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut, en termes d'éthique, en termes de déontologie, c'est pas parce qu'on peut le faire techniquement qu'on doit le faire aussi? Hein, donc il y a d'autres problèmes beaucoup plus complexes qui se posent, et d'où la nécessité de réfléchir un petit peu avant d'agir. C'est normalement, en théorie, le but des comités d'éthique qui devraient être là normalement pour réfléchir à des conséquences désastreuses possibles sur la manipulation du vivant.
Je pense qu'on va avoir des questions à se poser, qu'on le veuille ou non. Là, on a, avec les phtalates, les bisphénols, on entrevoit des problèmes graves de fertilité à court terme. On est capable de faire des enfants à partir avec juste des femmes, si on veut. Je veux dire, c'est pas des questions qu'on va se poser de façon théorique en philosophant. C'est des questions qu'on va devoir se poser pour vrai dans la vraie vie, parce que il y a des bonnes chances qu'on fasse plus des bébés comme on les faisait avant bientôt.
Et puis si on se les pose pas, la science-fiction est là pour imaginer toutes les hypothèses plus ou moins catastrophistes ou pas possibles et nous pousser à réfléchir avant d'agir, encore une fois, hein, si possible.
Est-ce que, je rajoute une question, est-ce que ces manipulations génétiques sont accessibles hors matériel extrêmement coûteux et sécurisé? En gros, est-ce que quelqu'un dans son labo, avec l'argent qu'il faut, pourrait trafiquer tout ça en dehors de tout comité d'éthique, par exemple?
Je ne sais pas. Il faudrait peut-être se pencher sur la recherche militaire, sans non plus tomber dans la théorie du complot ou la paranoïa, mais il faut vraiment se poser les questions le plus rapidement possible et voir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire en termes de manipulation génétique. Mais c'est pareil pour la cybernétique, finalement, et la notion de cyborg. À partir de quel stade augmenté ou technologique vous êtes un cyborg? Si vous avez un petit écouteur, si vous êtes sourd de l'oreille droite ou de l'oreille gauche, peu importe, vous avez un petit écouteur, donc vous avez de la technologie embarquée, donc par définition, vous êtes un cyborg. Voilà, ces messieurs portent des lunettes, donc nous sommes entourés de cyborgs. Alors c'est ironique, bien sûr, mais
il faut savoir faire des...
Arg, un T2000. Il faut savoir se poser voilà, les questions aussi en fonction de... Je pense qu'il y aura un changement aussi, et c'est déjà le cas, quand la technologie sera non pas portée, soit par des lunettes, soit par des oreillettes, on va dire, mais embarquée, et c'est déjà le cas avec différents types de prothèses.
Oui, les pacemakers, ça fait longtemps. Là, on a...
Est-ce qu'il y a encore une question ? On ne vous voit pas, en fait. C'est pour ça qu'on a du mal à identifier.
Oui, ma question, c'était, est-ce que dans les zones où il y a eu des accidents nucléaires, il y a eu, on a vu des mutations importantes des espèces à cause de la radioactivité qui était présente?
Le vrai Godzilla.
Des Godzilla-like. Il y a eu en tout cas une désertification humaine hein, à Tchernobyl à cause de taux létaux hein, de radiation. Mais paradoxalement, et je ne suis pas un supporter du nucléaire bien sûr, mais on voit que maintenant Tchernobyl s'est réoccupé en fait par des espèces sauvages. Alors, pas grâce à la radioactivité, mais parce qu'il n'y a plus d'hommes. Donc ils sont peinards. Alors le milieu est un peu pourri quand même, un peu beaucoup pourri encore par la radioactivité, mais il n'y a pas d'hommes. Donc en fait, il y a des chevaux, je crois, de Przewalski qui reviennent naturellement dans ces zones-là. Et ce sont des espèces ou des sous-espèces en fait, qui avaient quitté la région depuis un moment. Donc finalement... Est-ce que c'est l'atome ou l'homme qui n'est pas fréquentable? On peut se poser la question.
Oh, juste pour parler de revenir un peu ce qu'on disait au début sur Hulk, il y a un truc qui m'a frappé. Effectivement, la radioactivité des super-héros, c'est très lié. Et donc, il y a Spider-Man et sa fameuse araignée radioactive. Bon, j'ai toujours pourchassé les araignées dans les accélérateurs, j'en ai jamais trouvé une. Mais. Donc effectivement, le Spider-Man original a été piqué par une araignée radioactive. C'est ce qui lui donnait les pouvoirs. Et en fait, quand on regarde la version de Sam Raimi au début des années 2000, en fait, il est piqué par une araignée qui n'est plus radioactive, mais génétiquement modifiée. Et je trouve que c'est une chose assez intéressante de voir qu'effectivement, on a perdu un aspect mythique de la radioactivité, et alors qu'au contraire, c'est une autre technologie qui est apparue comme possible... pourvoyeuse de trucs mystérieux et tout. Bon, alors, heureusement, on a fait un reboot numéro 53 où on revient enfin à l'origine de l'araignée radioactive, mais c'est assez significatif de voir comment ces fictions évoluent et rendre compte de la perception qu'on a, nous, de certains, soit des technologies, soit des phénomènes physiques.
Il y avait une fascination avec l'espace. Là, on a les rayons de l'espace. Ça, c'est dangereux. On l'a dans la littérature. Andromeda Strain de Crichton. Qu'est-ce qui est plus dangereux qu'une bactérie? C'est une bactérie qui vient de l'espace, qui peut, comme, évidemment, ça va être 10 fois plus dangereux si ça vient de l'espace. Mais comme on en a moins peur aujourd'hui, il faut trouver d'autres choses. Hein, en fait.
Oui, c'est ça, on doit s'inventer de nouvelles peurs, je pense, au fur et à mesure des choses. Bah, où ça peut être les nanotechnologies, par exemple, des choses comme ça. Ça fait partie, bah, c'est ce qui va maintenant habiter les nouvelles fictions.
Oui, c'est déjà commencé. Alors, j'ai pas de titre en tête, mais il y a déjà pas mal d'œuvres qui utilisent justement les nanotechnologies pour développer toutes sortes de monstres ou toutes sortes d'intrigues.
Ou des hommes super forts.
Exactement.
Mais qui s'auto-réparent.
Le rapport, effectivement, entre connaissances scientifiques à un temps donné et œuvres de science-fiction, il est criant aussi dans Godzilla. Godzilla, c'est une production japonaise, hein, 1954, je crois, donc après-guerre. Et quand le film apparaît sur les écrans, il est censuré aux États-Unis. C'est peut-être pas pour rien.
On a le temps pour une dernière question. Ici, si c'est possible. Merci à vous.
Oui, pour compléter et étendre la question précédente, est-ce qu'on a des traces ou est-ce que connaissance de mutations provoquées, viables, produisant alors soit individus, soit nouvelles espèces?
Et des mutations.
Oui,
c'est ça.
Oui.
La vache, ça marche bien ou pas?
Des mutations naturelles ou des mutations artificielles?
D'où le provoquer. C'est
d'accord.
Pour étendre pas forcément
donc,
de manière
provoquer.
Pas forcément avec la radioactivité, mais avec d'autres moyens.
Oui, oui, oui. En labo, je pense par exemple en génétique du développement. Je pense à une mouche qu'on a trafiquée génétiquement, la pauvre. Elle se retrouve avec des pattes à la place des yeux ou des pattes à la place des ailes et inversement, finalement. On a créé ce monstre-là pour mieux comprendre en fait comment les gènes architectes, entre guillemets, c'est-à-dire en jargon généticien, les homéobox, je crois, comment ces paquets de gènes-là, ces familles de gènes interagissent au cours du temps embryonnaire pour former soit une patte, soit un segment avec des yeux, donc un segment de la tête, soit un segment avec une paire d'ailes. Et ce sont des mutations provoquées en fait en laboratoire qui nous permettent, en traficotant en fait ces gènes du développement, de mieux comprendre leur timing, aussi bien donc dans le temps que sur la morphologie en fait de l'asticot, pour faire simple.
Est-ce que tu considérerais que l'élevage et le choix de vaches avec les mamelles de plus en plus grosses ou les chiens avec les petits toutous rikiki et puis les bons gros toutous des Pyrénées, est-ce que ça rentre aussi dans une mutation provoquée?
Oui, tout à fait. Finalement, la sélection humaine, l'humain est maintenant capable, depuis longtemps d'ailleurs, de modifier le vivant autour de lui. Et c'est une des rares fois sur Terre où c'est apparu dans l'évolution des espèces. Je pense aussi à la première grande, au changement en fait atmosphérique d'il y a 2 milliards d'années, qui est dû en fait aux bactéries qui deviennent en fait photosynthétiques et qui crachent énormément d'oxygène. Donc c'est ce qu'on appelle la grande oxygénation, où là, pour la première fois dans l'histoire du vivant et dans l'histoire de la planète, on a des espèces, enfin du vivant, qui va modifier substantiellement en fait quasiment tout le reste. C'est ce qu'on appelle des espèces ingénieurs, c'est-à-dire des espèces capables de modifier substantiellement leurs environnements.
Eh bien, merci beaucoup. Il est 16h58 et on va laisser la place merci. À la conférence suivante. On peut remercier nos
merci.
Invités.
Merci.
N'hésitez pas à prolonger la discussion avec eux à la librairie où ils sont en signature à partir de maintenant. Merci à vous et très bonne continuation. Au revoir.